Une multitude de langues, de cultures, de civilisations, une histoire d'une infinie richesse, voilà quelques-unes des caractéristiques du bassin méditerranéen qui est aussi et surtout le berceau des trois grandes religions monothéistes. 46 000 km de littoral qui bordent 24 pays et territoires en Europe, en Afrique et au Proche-Orient. La Méditerranée, ce sont des paysages à couper le souffle, un climat spécifique et un art de vivre. Mais c'est aussi le théâtre de rivalités, de convoitises, de domination et de guerre. Et puis c'est dans cette mer que des milliers de migrants ont perdu la vie en essayant de rejoindre le continent européen. Dès le début de son pontificat, le pape François a alerté sur cette tragédie. Lors de son déplacement sur l'île de Lampedusa en juillet 2013, il avait dénoncé la mondialisation de l'indifférence et la culture du déchet. François appelait de ses vœux une approche conjointe des pays riverains de la Méditerranée pour faire face à ces défis communs. Et c'est pour répondre à cet appel que des théologiens du pourtour méditerranéen se sont mis au travail et ont développé une théologie de la Méditerranée que certains appellent une théologie depuis la Méditerranée. Christian Salençon en fait partie. Il est prêtre du diocèse de Nîmes, il enseigne à l'ISTR de Marseille et il est un spécialiste du dialogue interreligieux et plus particulièrement islamo-chrétien. Il est aussi connu pour être un des meilleurs connaisseurs de l'histoire des moines de Tibérine et de leur prieur, Christian de Chergé. Je suis journaliste et je suis allée l'interroger chez lui, à Nîmes, sur les questions anthropologiques, sociales et religieuses telles qu'elles se posent dans l'espace méditerranéen. Et puis sur les éléments de réponse que la théologie depuis la Méditerranée peut apporter, ou au moins sur la façon dont elle éclaire les principaux enjeux. C'est l'objet de cette série de podcasts. Je m'appelle Véronique Alzieux et vous écoutez La Méditerranée, une géographie de la rencontre. Premier épisode, la Méditerranée, des cultures et des civilisations.
Alors la Méditerranée, effectivement, c'est d'abord un espace géographique, mais c'est un espace tout à fait original, parce que c'est un espace unifié. C'est un espace qui est regroupé autour de cette mer, en même temps qui sépare les rives et en même temps qui les unit. On est souvent dans le paradoxe, se trouve dans la Méditerranée d'ailleurs. La mer unit, elle a uni les peuples, elle a uni les civilisations, elle a uni les empires, et en même temps elle sépare, parce qu'il faut la parcourir, et que ce n'est pas toujours facile, et qu'il y a des périodes de l'année où on ne la parcourait pas facilement dans les temps anciens, etc. Et alors, c'est une définition aussi qui est marquée par le climat. Le climat est à peu près le même, la végétation est à peu près la même que l'on soit en Palestine, dans la garrigue nîmoise ou en Algérie. C'est un espace qui est assez particulier.
C'est vraiment ce qu'on appelle le climat méditerranéen.
Le climat méditerranéen, voilà, qui est à la fois tempéré par l'eau, qui adoucit quand même ce climat, et en même temps qui est d'une violence extrême, parce que la chaleur en août... C'est insupportable, quoi. Voilà. Et il peut y avoir des grands froids, il peut y avoir des grands vents, il peut y avoir des grosses tempêtes qui sont redoutables, etc. Donc c'est un pays de paradoxes, quoi. Voilà.
Et de contraste.
Et c'est un pays qui est pauvre. La terre est pauvre. On vit de pas grand-chose. Il y a bien quelques deltas qui sont riches, comme le delta du Nil, mais en général, la terre est pauvre.
Qu'est-ce qui pousse sur cette terre pauvre ?
Il pousse pas grand-chose. Il pousse de la vigne. Ça fait du bon vin, remarquez, c'est bien. Hein. Et puis de l'olivier, et puis du blé. Et beaucoup de populations ont vécu avec pas grand-chose. Hein. Le régime crétois dont on parle maintenant, c'est un luxe pour les magazines de diététique. Hein. Mais c'est d'abord une nécessité des gens qui n'avaient pas grand-chose, sauf 4 tomates, 2 concombres et des oignons. Quoi, voilà. La nourriture est frugale. Elle est festive et frugale. Elle est festive. Parce qu'on adore ça, on adore manger, les Méditerranéens. Et on ne mange pas à midi, nous, on ne mange pas à midi. Nous, on mange le soir, quand la chaleur a passé, quand on est tranquille, on mange le soir, voilà. Et on mange bien, mais voilà. Voilà un pays étonnant. Là, j'ai évoqué la géographie physique, mais c'est un espace civilisationnel.
C'est-à-dire ?
Alors, C'était Paul Valéry qui disait « C'est une machine à fabriquer des civilisations. La Méditerranée est une machine à fabriquer des civilisations. » Quand on regarde, c'est tout à fait étonnant. Je pourrais remonter très très loin, je ne vais pas remonter très loin, mais pensez à la civilisation minoenne qui a engendré la civilisation grecque, la civilisation romaine. Avant, j'aurais pu parler de la civilisation égyptienne, j'aurais pu parler des Philistins, j'aurais pu parler... Alors après, on continue, c'est la civilisation arabo-musulmane, c'est la civilisation byzantine. C'est une machine à fabriquer des civilisations, qui d'ailleurs sont emboîtées les unes dans les autres.
Parce qu'il y a des échanges, on y viendra.
Évidemment, c'est un lieu d'échange, où on va s'enrichir en permanence de ce que vivent les autres. C'est un lieu d'échange fabuleux, pas toujours des échanges faciles, c'est parfois conflictuel, mais peu importe, c'est des échanges. Mais alors ça va donner naissance à des grandes civilisations, c'est une matrice de civilisations. Et ça va donner aussi des empires. On va avoir des grands empires qui se ressemblent d'ailleurs. Ils en ressemblent au moins dans la forme, puisqu'ils vont, ils vont épouser globalement le tour du bassin. C'est l'Empire romain, qui va être une grande période de paix d'ailleurs. Ça va être l'Empire byzantin, qui va avoir une importance quand même pendant... C'est des siècles que ça dure ces affaires-là. C'est des millénaires quand ça se compte, un empire romain pratiquement. C'est l'Empire ottoman et les échanges qui ont eu lieu autour de la Méditerranée pendant cette période-là. Voilà, ça crée des grands empires.
Hein. Vous parliez de culture tout à l'heure. En termes de culture et de langue, il y a une richesse inouïe. On va dire que le dénominateur commun, c'est souvent le latin, les langues latines autour de la Méditerranée, mais pas seulement.
Non, pas seulement. D'abord, avant le latin, il y a le grec et d'autres langues. Quoi. C'était... Et puis, c'est un endroit où ça s'est diffusé. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on parle grec. Quoi. Voilà, partout, on parle grec. La langue officielle, c'est le grec. Puis après, ce sera le latin, mais voilà. Et des langues riches. Et l'arabe, qui est une langue prodigieuse. Et il y a ce que Louis Massignon appelait les langues de civilisation. Et alors, évidemment, Louis Massignon, qui adorait l'arabe, disait « c'est une langue de civilisation ». On pourrait dire des choses comme ça autour de l'hébreu, autour du grec.
Ne peut pas s'empêcher d'avoir envie d'aller voir ce qu'il y a au-delà. Donc un lieu qui depuis toujours, je ne sais pas, mais en tout cas depuis fort longtemps, est un lieu de passage.
Complètement. C'est un lieu de passage où on s'enrichit de la culture des autres pour en inventer une nouvelle. On va recevoir. C'est un lieu où on reçoit énormément des autres. Parfois de manière conflictuelle. Hein. Il y a des conflits très durs. En Méditerranée, pensez aux guerres puniques, par exemple, ou entre Rome et Carthage, il faut penser aux croisades. Voilà. Mais les croisades sont un lieu d'échange prodigieux. Et on s'enrichit des techniques, des manières de faire, etc. Maintenant, on parle beaucoup de l'eau. L'eau, j'aurais pu le dire dans la géographie physique, l'eau. L'eau, on n'en a pas beaucoup, voire dans la Méditerranée. Et on avait l'habitude de l'économiser. Mais il fallait aussi irriguer. Et les techniques d'irrigation... Elles sont diffusées autour du bassin méditerranéen. Dans les Cévennes, on irrigue les cultures. Je suis originaire des Cévennes. On irrigue les cultures comme les Arabes nous l'ont appris. Donc on est dépendant des techniques qu'ils avaient mis au point parce qu'ils avaient peut-être un peu plus d'expérience que les autres sur la rareté de l'eau, etc.
Donc c'est un lieu de partage d'expériences, de culture, de manière d'être, de faire. Et puis c'est un carrefour économique inégalé.
C'est un carrefour économique inégalé, effectivement, avec des échanges économiques qui ont eu lieu à toutes les époques, même lorsque la navigation était très dangereuse. Même, on ne pouvait pas naviguer pendant une partie de l'année, mais tout le reste du temps, on naviguait, on trouve des poteries qui ont été faites sur le Larzac, on les retrouve en Égypte. Quoi. Donc ça a circulé. On a amené de l'eau d'Égypte, comme aujourd'hui on déplace des eaux minérales, on a amené de l'eau du Nil pour le vendre ici, en Gaule, quoi. Mais l'échange commercial a été un grand échange de culture. Et en même temps, l'échange de culture a permis l'échange commercial. Et enfin, c'est un lieu d'échange religieux. Car la religion n'est pas une superstructure. La religion, elle fait partie de la vie des peuples. Dommage pour ceux qui ne le savent pas et qui ne le comprennent pas. parce que ça les empêche de comprendre des choses et des civilisations. Mais la religion, elle est centrale. Et cet espace-là, c'est quand même un espace qui a vu naître le judaïsme, le christianisme sous des formes variées, et l'islam, excusez du peu. Et je vous ai pris que les religions monothéistes, mais j'aurais pu dire avant les religions de l'Antiquité. Moi, quand je pose le pied sur l'île de Délos, je pleure. Je pleure parce que cette île était consacrée totalement à la religion. Et elle réunissait tous les peuples du tour, malgré les difficultés de la navigation, pour aller se rassembler et pour aller prier sur cette île-là. Quand je vais à Delphes, je suis ému. C'est un lieu de civilisation, c'est un lieu de religion. Et aujourd'hui encore, on a des sanctuaires partagés. On a des lieux de religion partagés.
Par exemple,
les sanctuaires Mario. Les sanctuaires Mario sont partagés. On y trouve aussi bien des chrétiens, sous diverses versions, que des musulmans. Voilà, c'est ça, c'est la religion en Méditerranée.
Alors, on a dressé un peu un tableau, là, bien sûr, incomplet de la Méditerranée, mais on en a défini quelques caractéristiques. Christian Salençon, pourquoi cet espace que vous venez de décrire suscite-t-il aujourd'hui autant de questionnements et est-il la matière d'une réflexion à laquelle vous participez, vous l'avez dit au début de cet entretien, avec des enjeux assez cruciaux, on va le voir.
Pour moi, c'est un espace théologique.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que la Méditerranée, c'est un espace, comme dirait François, qui a un message à porter.
Le pape François.
Oui, le pape François. C'est une géographie de salut. Moi, je l'appelle une géographie du salut. Alors, dans la théologie, il y a l'histoire du salut. C'est-à-dire qu'on considère que dans l'histoire des hommes, il y a une histoire de Dieu qui s'écrit en filigrane. Dieu écrit une histoire dans l'histoire. Mais moi, je crois qu'il écrit une géographie dans la géographie. C'est-à-dire, je crois que pareillement, il y a une géographie du salut et que dans cet espace-là, il y a quelque chose d'une présence et d'une révélation de Dieu qui accompagne la vie des peuples. Et que ce n'est pas le fruit du hasard. Si cette mer et terre a été une matrice de civilisation et de religion, c'est qu'elle est porteuse d'un message particulier et qu'elle n'a pas fini d'être féconde.
Qu'est-ce que c'est le salut, Christian Salençon ?
Ah, bonne question. Le salut, en théologie, je vais le dire très rapidement, c'est la volonté de Dieu que les hommes aient une vie en abondance. J'ai emprunté la définition à Jésus. C'est cette volonté de Dieu que les hommes aient une vie en abondance, et pas uniquement économiquement, mais une vie en abondance culturellement, le bonheur, etc., la plénitude, qui découvre la plénitude de ce qu'est la vie humaine.
Et donc la Méditerranée, telle que vous venez de nous la décrire rapidement, c'est une sorte de laboratoire, c'est pas moi qui invente ce mot, de cette quête du salut.
Exactement, c'est une expérience de la quête du salut des hommes, et c'est une expérience où Dieu délivre une parole pour l'humanité. La Méditerranée, elle n'est pas faite pour elle. D'ailleurs, elle a beaucoup rayonné dans l'histoire. Pensez à l'Amérique latine, par exemple. Pensez, elle a beaucoup rayonné dans l'histoire. Et elle est appelée à de grands rayonnements encore.
C'est la fin du premier épisode de cette série de podcasts. Nous retrouverons Christian Salençon dans le prochain épisode. Et nous aborderons avec lui les enjeux anthropologiques de la Méditerranée.